Et bonjour tout le monde et bienvenue à Dimanche Dépression. On est dimanche, c'est Guillaume et comme d'habitude, on se retrouve avec une belle bande de pignouf autour d'une table un dimanche soir pour parler de sujets déprimants, pour parler de sujets qui permettent de finir la semaine sur une bonne note. Et avec moi, j'ai l'incroyable, le beau, le barbu, le célèbre Laurent, désormais.
Je suis célèbre, je passe dans les Arocs.
Exactement. Comment ça va Laurent ?
Ça va bien et toi ?
Ça va. Ensuite, j'ai notre blonde, notre blondinette, oserais-je dire, l'incroyable, la sensible, celle avec un magnifique bonnet, à savoir Marine. Salut Marine.
Bonsoir.
Ensuite, bah, c'est l'épatante, celle après qui on ne peut plus rien dire une fois qu'elle a fait sa chronique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle passera en dernier, à savoir Marie. Comment ça va, Marie ?
Ça va bien, merci.
Et ce soir, nous avons un cinquième intervenant, à savoir, nous avons celui avec qui nous parle le plus pratiquement sur notre Discord, à savoir Avocalex. Avocalex, tu veux qu'on t'appelle comment ce soir?
Alex, Alex, c'est très bien, Alex, ouais, c'est bien.
Eh bien Alex, ravi de te recevoir parmi nous.
Salut.
Voilà, et ce soir, de quoi parlons-nous? Bah tiens, Marie, de quoi on parle ce soir?
De la solitude.
Et ça, toi, ça te fait rire, ok, on en est là.
Non, mais parce que j'adore ce genre de questions rhétoriques. En mode, mais de quoi on va parler? Et là, je suis obligée de feindre un peu le...
Hey.
de teaser un peu. Mais je, voilà.
Donc, ce soir, nous aurons, donc, comme d'habitude, les mauvaises nouvelles présentées par Marie. Puis ensuite, nous aurons quatre chroniques. Oui, oui, parce que vous n'en aurez pas une ni deux ce soir, mais bien quatre. Quatre. Une de Marine, une de Laurent, une de moi et une de Marie. Et vous, je l'ai fait dans l'ordre chronologique. Blam ! Et vous avez vu, incroyable. J'ai tout retenu d'un coup. Mais quel est cet homme qui présente
mais
cette émission ? Mais oui ! Ça me fait plaisir qu'enfin que tu le reconnaisses. Vraiment, ça, je trouve que vous m'estimez vachement dans cette émission. Donc, je vais vous dire, on va lancer le meilleur jingle tout de suite de l'émission, puisque nous allons lancer Marie et ses mauvaises nouvelles, parce que nous n'allons pas perdre de temps, car 4 chroniques, c'est long. Et j'ai un voisin qui est très, 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 très peu commode. Donc, c'est parti pour le jingle des infos.
Alors, c'est des petites mauvaises nouvelles pour aujourd'hui. On commence par Israël. La police recommande l'inculpation de Netanyahou. Le premier ministre israélien est en effet soupçonné de fraude, de corruption et d'abus de pouvoir. Il aurait agi favorablement au profit du groupe de télécom Shaul Elovitch en échange d'une couverture médiatique positive pour lui et sa femme. Peut-être est-ce cette affaire qui a inspiré Alain Suguro, comment c'est le maire de Beaune? Je ne sais pas, je l'ai mal écrit. Bref, c'est pas grave. Enfin, il est placé en garde à vue depuis mardi dernier. Il y est resté 72 heures avec quelques membres de sa famille. Le maire Les Républicains est mis en examen pour le classique détournement de fonds publics et blanchiment. On pense ensuite à l'actualité chaude du moment, les gilets jaunes, déblindés pour maintenir le calme à Paris. Au total, 1082 interpellations réalisées pour Paris. Plus de 900 personnes parmi celles-ci ont été placées en garde à vue. Et ce dimanche matin, 396 d'entre elles ont été levées, conduisant seulement 108 personnes en déféré au parquet de Paris. Nicole Belloubet, ministre de la Justice, assure qu'il n'y a pas eu d'interpellation préventive. Cette semaine, plusieurs lycéens ont également été blessés par des tirs de flashball. Les forces de l'ordre à Mantes-la-Jolie ont interpellé des jeunes et les ont fait mettre à genoux. Main derrière la tête, la vidéo a fait le tour du web et a été saluée par Ségolène Royal qui a dit « ça leur fera un souvenir ». International, le pacte de Marrakech rassemble les partis d'extrême droite. Le pacte adopté en juillet à l'ONU et qui aborde la question des migrations doit être signé les 10 et 12 et 11 décembre. À l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, cela a été l'opportunité pour l'extrême droite française et le mouvement pour l'Europe des nations et des libertés de renouveler leur opposition à un texte non contraignant, indiquant simplement qu'il va falloir, je cite, « créer des conditions favorables qui permettent à tous les migrants d'enrichir nos sociétés grâce à leurs capacités humaines, économiques et sociales ». Ben alors, on n'a pas envie que Mustapha et Khaled viennent vider nos poubelles? Enfin, vous êtes jamais contents, vous les gars d'extrême droite. En plus, on pourrait les accueillir avec un gilet jaune. Enfin, Sierra Leone, tu parleras après. Après 3 semaines de grève, les médecins poursuivent leur mouvement, déplorant le manque d'instruments, de machines et de places, jusqu'à un lit pour deux ou trois personnes. Ils se mettent en grève illimitée face à un gouvernement parmi les plus corrompus du monde et un personnel médical limité, un médecin pour 100 000 habitants. Voilà, Guillaume, tu voulais dire quelque chose ?
Alors oui, il se trouve que j'étais à Paris ce week-end et alors que nous approchions de Saint-Lazare avec mon patriarche, je me retourne et je dis « Tiens, des gilets jaunes arrivent et remontent sur Saint-Lazare. » Et mon père me dit « Mais non, regarde, ils sont habillés en vert, c'est les mecs de la voirie de Paris. » Et en effet, ça, quand tu parlais des boueurs et de mecs qui faisaient notre boulot à notre place, bah oui, malheureusement, c'est visiblement... Enfin bref, voilà. Et deuxième chose, oui, tu parlais des gilets jaunes et je voulais en fait vous parler de ma nouvelle idole. C'est la nana qu'on envoie sur tous les plateaux pour répondre aux gilets jaunes et qui, déjà, rien que par son nom, se décrédibilise et, à vrai dire, est la personne, je pense, qui va se faire le plus détester en France après Macron. À savoir, est-ce que vous connaissez Amélie de Montchalin ? Cette femme est devenue ma nouvelle idole. C'est la nana qui dit « On va tous vous donner 20 euros. » Là, tous autour de la table. Et t'as la nana qui la regarde, qui lui fait « Attends, non, mais attends, t'as pas compris, là. 20 euros, c'est rien. C'est quoi, 20 euros ? C'est les appels que tu m'as enlevés, tout ça. » Et elle se prend des tombereaux de merde, mais elle reste digne, belle, et prononce un certain nombre de conneries.
Elle a des lunettes et les cheveux longs ?
Tout à fait.
Ah bah oui, je l'ai déjà vu, en effet. Elle fait très chrétienne.
Ouais, elle fait... On sent que c'est pas l'électorat de gauche qui a fait gagner Macron. Hein, ouais. On est bien d'accord.
Ouais, ouais.
Voilà. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose, mes bons amis autour de la table ? N'hésitez pas à lever la main parce que cette fois-ci, c'est vrai qu'on a plusieurs micros. Enfin, on n'a pas des micros pour tout le monde. Dites-moi.
Bon, ça sera tout pour moi.
Ok, donc on passe déjà au gros sujet. Il n'y a que moi qui ai des choses intelligentes à prononcer sur les mauvaises nouvelles de Marie.
Écoute, monsieur le maire de Beaune, si vous nous regardez. J'espère que vous nous regardez. Voilà.
Ok, et bah sur ce, mes bons amis, nous allons lancer.
Tu en restes sans voix.
Oui, je ne sais plus quoi dire.
On va lancer la chronique de Laurent.
Formidable.
Et j'espère que vous reconnaîtrez ce soir chacun et chacune qui nous vous écoutez, qui nous veillez, ou qui nous... Ceux qui nous regardent en live... à quel point les chansons choisies ce soir sont admirables et de bon goût. Voilà, sur ce, la première coupure, c'est parti pour Laurent après.
Et donc c'est à moi ?
Oui, c'est tout à fait, c'est à toi.
Alors, ma chronique va être un peu particulière parce que le contenu de ma chronique, c'est l'histoire de l'écriture de ma chronique.
C'est bien, il y a une mise en abîme. Hey.
Voilà.
Bravo.
Donc, mais vous allez voir, ça va faire sens. Alors, quand on a décidé la semaine dernière que le sujet de ce soir, ça serait la solitude, je me suis dit, pas de problème, c'est super facile comme sujet. Mais en fait, je me trompais lourdement. Et nonobstant le fait que j'héberge chez moi un ami en ce moment, et du coup j'habite pas seul, je me rends compte qu'il n'y a pas un seul jour où j'ai pas affaire avec l'un ou l'autre de mes amis. Il m'est donc venu la réflexion suivante. Est-ce que j'aurais pas peur de la solitude ? Bon, après y avoir réfléchi quelques minutes, j'ai décidé que la question n'était pas intéressante, de manière totalement arbitraire et due au biais d'autocomplaisance. Hein. Encore un biais de cognitif, je vous renvoie à l'épisode sur les débats sur internet, retrouvez-nous sur Spotify.
À chaque fois on le fait, hein, on réussit à remplacer, hein, c'est oui. Très bien. Vas-y.
Et puis il m'est venu une toute autre question, beaucoup plus intéressante selon moi. Est-ce que être entouré, ça suffit à être préservé de tout sentiment de solitude ? Donc il m'est revenu à l'esprit les propos de Guillaume concernant l'isolation nécessaire des gouvernants. Je crois que c'était quelque chose comme ça.
Oui.
C'était pendant la chronique, pendant l'épisode sur Nicolas Sarkozy que vous pourrez retrouver sur iTunes aussi. J'ai donc considéré que la solitude, c'est un concept extrêmement flou, comme beaucoup de concepts traduits par un terme unique. De quoi parle-t-on exactement ? Est-ce que c'est le fait de ne pas posséder d'entourage ? Est-ce que c'est le fait d'être pas satisfait de ses relations, peu importe leur nombre ? Est-ce que c'est le fait d'être pas compris, quand bien même on serait soutenu ? D'ailleurs, malgré tous ses soutiens, Emmanuel Macron se sentirait pas un petit peu seul, étant donné qu'il est le seul à pouvoir appréhender les implications de sa pensée complexe ? Autant de questions auxquelles j'ai pas répondu, puisque c'était l'heure de retrouver les amis en ville. Alors, un kebab et quelques pintes de jus de pêche plus tard, je me retrouve de nouveau dans l'intimité de mon chez-moi. Et il me vient une réflexion passionnante, fruit de l'observation d'un fait social qui, paraît-il, est endémique de la population dijonnaise. Parce que, il se trouve que, dans notre belle capitale des ducs de Bourgogne, aux merveilles aussi nombreuses qu'admirables, nichées au débouché du Val de Louche, dans la vaste plaine de la Saône, à la naissance de la Côte de Nuit, réputée dans le monde entier pour ses vins d'exception, cette émission n'est toujours pas sponsorisée par la mairie de Dijon. Donc, dans notre belle ville de Dijon, la population fréquentant les bars ne se mélange pas. Les gens restent à leur table entre eux et il n'y a pas ou peu de mixtion. En tout cas, c'est ce que beaucoup de non-dijonnais m'ont rapporté.
Mixtion, de mixité, parce que la mixtion, tu sais ce que c'est ?
C'est sûrement un terme chimique, mais...
Non, la mixtion, M-I-C-T-I-O-N, c'est quand tu fais pipi. Voilà, je t'apprendrai un mot pour aujourd'hui, donc la mixité.
Alors,
la
ça, mixtion. Ça me fait extrêmement plaisir de l'apprendre.
M-I-C-T-I-O-N.
La mixtion, c'est quand tu fais pipi, c'est ça que t'as dit ?
Et tout à fait.
C'est vérifié par ouais, le Larousse, en effet.
Enfin, bref.
Mais, non, mais en plus du doute de moi, c'est moche de faire ça.
Mais du coup, tu valides. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, c'est difficile de s'intégrer quand t'es pas un petit peu sociable à Dijon. Je sais pas, toi qui viens de Paris...
Les Parisiens sont pas beaucoup plus sociables, hein.
Alors, je sais pas. Je me défendrai de faire tout jugement, tu vois, pour une
très
fois.
Bien.
Bon. Je trouve que les Bretons sont beaucoup plus durs à l'intégration que les Dijonnais.
Enfin
par exemple.
Bref, étant donné qu'on m'a beaucoup dit ça, la réflexion qui en est née est la suivante. Est-ce que le contraire de la solitude, ça serait pas être entouré, mais plus précisément appartenir ou s'identifier à un groupe ? Prenons mon cas. Si je me prends d'affection pour un marcheur, patron de start-up disruptive, issu d'un milieu citadin aisé, le genre qui a du mal à trouver des restos à moins de 200 € sans compter le vin, par exemple. Est-ce que, pour autant, je me sentirais pas un peu seul, étant donné le manque de marqueur d'identité commun à nos deux personnes ? Donc, ce qui signifierait que l'identité ethnique, sexuelle, ou l'identité de classe et les luttes qui y sont liées ne seraient finalement pas tant une problématique liée au rapport de domination, mais à notre nature profonde d'animal social fuyant la solitude comme la peste. T'imagines ça ? La lutte des classes, c'est un produit logique de notre évolution due à la sélection de marqueurs génétiques différenciés au moyen de la sélection naturelle, comme dirait l'autre. Enfin bref. Suite à ce vertigineux crossover de Marx et Darwin, que je me suis promis d'explorer davantage, chose que je n'ai bien évidemment pas faite, j'ai pris une pause réflexatoire, c'est encore un mot que j'ai inventé ça, bien mérité, en me rendant au boulot. J'aime bien mon travail, j'ai des collègues très agréables dont certains sont aussi des amis et je passe ma journée au contact des gens, c'est extrêmement enrichissant socialement. Donc toujours pas de sentiment de solitude en vue ce jour-là, ce qui n'est pas pour m'arranger. Mais alors que je rentre à mon domicile en vue de me repencher sur l'écriture de ma chronique, je me rends compte que cet exercice solitaire, l'écriture... Hein,
j'avais bien compris moi, j'avais suivi.
Tu pensais pas un truc...
C'est pas mon style.
Fait naître des questions. Auquel j'aurais jamais apporté le moindre semblant de réponse, mais ça, c'est un autre sujet. Ce qui fait, bien sûr, naître dans mon esprit une nouvelle idée. Tout compte fait, si la solitude effraie tant les gens, c'est parce qu'ils ont peur de l'absence de sens. La solitude, ça participe à la réflexion, au questionnement existentiel, à ce genre de problématiques qui sont souvent insolvables. Ce qui est parfois frustrant et parfois même effrayant. Quel est mon but ? Pourquoi pensais-je ? Mes efforts de survie ont-ils un sens ? La solitude, c'est être mis face à l'absurdité de l'existence et son absence de finalité, ce qui est complètement opposé au processus de pensée de nos cerveaux de primates doués pour la survie. La chèvre, c'est de la viande, l'arbre, c'est une poutre, le caillou, c'est un marteau, la racine, c'est un légume, etc. Tout peut se définir selon son utilité ou sa nuisibilité. Être seul, c'est perdre l'utilité des choses. Voilà, ça c'est une des définitions qu'on pourrait donner de la solitude, comme toutes celles que j'ai données avant, et puis je ne sais pas laquelle serait la plus plausible. Mais il y a une chose dont je suis à peu près sûr, c'est que ce n'est pas une réponse que je pourrais trouver seule.
Oh, quelle conclusion.
Oui.
Ouais. Donc, est-ce que vous avez des sujets, des réflexions à porter?
Je sens que Marie est...
Non, non. J'allais juste demander si personnellement tu... Si c'est, enfin, t'as pas l'air de souffrir de solitude visiblement vu ta chronique.
Ah non, je crois pas.
C'est pas un truc.
Mais justement, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dedans parce que je dis, mais en fait, la solitude, je connais pas.
Ouais. Oui, bah d'ailleurs, qui souffre du fait justement de ne pas être seul? Qui a galéré à faire sa chronique parce qu'il avait un emploi du temps bien trop chargé cette semaine, par exemple?
Moi, j'ai pas galéré du tout en fait, vu que j'étais la première à avoir écrit quelque chose cette semaine.
Et J'avoue, c'était défait dès lundi, puisque nous l'avons lu tous dès lundi. D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous prendre exemple sur Marine et arrêter de faire nos chroniques le dimanche de 14h à 16h, par exemple. Parce que je crois qu'on en est tous là. D'ailleurs...
Non, moi je l'ai fini hier soir. Mais ah. J'avais les chroniques des mauvaises nouvelles à faire aujourd'hui.
T'as vu, c'est les mecs qui n'ont rien branlé cette semaine. Avec deux premières de la classe, eh ben moi je l'avais fait. Bah écoute-moi.
Mais ça dépend des thématiques, ça dépend un peu du temps de la semaine aussi. Hein.
Ouais, moi je sais pas.
Moi je pense que ça m'a vraiment bien inspiré par rapport à tout ce qu'on a pu parler aussi.
Moi j'avoue que j'étais très bien inspiré cette semaine, mais hier à 1h du matin. Et vraiment, j'étais bien inspiré hier soir. Tel point que j'ai écrit ma première page et je me suis dit. Faut vite que je l'écrive parce que sinon je vais perdre mon idée. Oui, Laurent, dis-moi.
Oui, moi j'ai eu un emploi du temps un peu chargé cette semaine entre les manifs auxquelles je participais moi-même et les heures sup que j'ai dû faire dans le cadre de mon boulot à cause des manifs. Parce que, étant donné que je bosse dans un lycée, il y a eu des manifestations lycéennes, etc. Donc plus d'élèves absents, etc.
Ok.
Donc, ouais, j'ai eu du mal à la faire moi aussi. En plus de l'habituel contexte social, tout ça.
Et justement, une bonne question, parce qu'à vrai dire, je trouve qu'elle a bien été soulevée par Laurent. Pour vous, c'est quoi être seul? Je veux dire, qu'est-ce que vous le définissez comme être isolé? Est-ce que ça veut dire être isolé des autres chez vous? Être isolé des autres ailleurs? Être isolé des autres? Ça, on peut être seul parmi plein de gens, on peut être aussi se sentir seul alors qu'on est très bien entouré, quelqu'un de dépressif, et voilà. Qu'est-ce que c'est pour vous être seul? À quel moment vous vous sentez vrai, véritablement seul? Dis-moi tout.
Moi, je pense que la véritable solitude, c'est pas le fait d'être seul physiquement, mais c'est vraiment le fait de se sentir seul, donc qu'on soit entouré. Et je pense que c'est encore plus accentué quand on est entouré de gens et qu'on se sent seul. Donc, moi, je pense que la vraie solitude, c'est ça, c'est quand on se sent vraiment seul au milieu d'un groupe, quand on se sent isolé un petit peu du groupe, quand on se sent pas inclus dans le groupe...
Et qu'est-ce qui fait que tu vas te sentir seul? Alors, tu as dit pas inclus. C'est ça que tu veux dire, pas intégré?
Oui, comme il parlait des marqueurs sociaux ou de... Je sais pas.
Le fait qu'on ne parle pas, le fait qu'on ne communique pas, le fait des...
Même pas forcément. En fait, c'est pas forcément le fait de communiquer avec les autres. C'est vraiment le fait de se sentir, de faire partie du groupe. Je pense que ça va au-delà de la communication. C'est plus vraiment le sentiment de se sentir appartenir à un groupe. Plus que le fait de parler aux gens, je peux parler à des gens sans me sentir en groupe avec eux.
Donc toi tu dirais par exemple qu'on pourrait ne pas se sentir seul parmi certains groupes et inversement sentir seul dans d'autres.
Voilà, c'est ça.
Je suis d'accord.
Ok, dans quel groupe ne te sens-tu pas intégré par exemple, Marine?
Ça date, hein. C'était plus à l'époque du collège, lycée et mes années à Primark.
Primark, petit magasin discount où vous pouvez retrouver Marine tout au long de la semaine à Dijon. Dis-moi, même question pour toi, à vrai dire, Alex. Dans quel moment tu t'es senti seul, particulièrement seul, alors que tu faisais partie plus ou moins d'un groupe?
La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était dans une grosse soirée où il y avait plein de gens, mais je connaissais personne vraiment. Et puis on n'avait pas vraiment les mêmes centres d'intérêt, ce qui fait que du coup je pouvais parler avec des gens, mais ça me passionnait pas plus que ça, donc je me sentais plutôt seul au milieu de plein de gens.
Ok, est-ce que vous avez envie de répondre à la même question, Laurent, Marie?
Moi, parce que sinon je ne pense pas pouvoir répondre à cette question en fait.
puisque tu ne ressens pas la solitude.
Exactement.
Formidable. Moi, c'est très souvent ouais, que je me sens seule dans les conversations. Ouais, mais ça peut être à cause de la conversation en question, ça peut être à cause des gens, ça peut être... J'ai beaucoup de mal à être en parfaite harmonie et en parfaite phase avec les gens qui m'entourent. Après, maintenant, ça se rétablit de plus en plus. C'est peut-être parce que je me connais mieux et que du coup, je rencontre des gens qui me ressemblent plus. Mais pendant longtemps, ouais, j'ai eu du mal. Voilà, c'est comme ça, je le sais, je l'accepte, c'est pas grave.
Je pense à une soirée très particulière, mais bon, c'est pas grave. Je...
Oui, et tu sais que ouais, c'est déjà arrivé. Bon.
Si, il y a quand même aussi les réseaux sociaux qui m'ont fait longtemps sentir seule, je dirais.
Pourquoi les réseaux sociaux t'ont fait sentir seule ?
Ben, tu sais, quand t'as beaucoup de gens qui postent leurs photos de soirée, les statuts, le nombre d'amis.
Quand ils passent sur Instagram, qui sont à l'autre bout de la terre et que toi tu te fais chier
ouais,
chez toi.
Bah pas forcément. Moi, c'est Instagram, je suis pas trop. C'est très. Moi, je suis plus les artistes, tout ça, les amis proches. Donc là-dessus, j'ai pas eu trop de soucis sur Insta, mais sur Facebook, il y a une époque où tout le monde postait leurs photos et tout en soirée, c'était pareil. Hein.
Ensuite. J'ai une dernière question, mais on va la faire très très rapidement. C'est-à-dire qu'en gros, les deux premiers qui veulent y répondre, ils y répondent. Et après, on doit passer malheureusement à la prochaine partie. Ma question, c'est est-ce que, dans quelle mesure, cette solitude que donc vous vivez, vous fait souffrir ? Est-ce que, d'un côté, de toute façon, je pense qu'après, on fera, comment dire, là, visiblement, on parle d'une solitude subie. Solitude que vous ressentez et donc sûrement une solitude conçue comme négative et non d'une solitude positive parce que je pense qu'il y a une solitude positive mais on en parlera après.
Oui.
Donc et dans quelle mesure ce genre de choses là vous fait vous sentir mal et qu'est-ce que vous ressentez, pourquoi vous vous sentez mal à ce moment là et qu'est-ce que vous faites pour y remédier peut-être d'ailleurs.
Qui veut répondre?
Marine visiblement oui.
Non, c'est
pas ce que vous avez dit. Bah vas-y Laurent répond alors. Bon, il n'y a plus personne.
Dans quelle mesure ça nous fait souffrir et comment on fait pour y remédier, c'est ça que tu
exactement,
veux dire ?
Exactement, ouais.
Bah moi, je pense que dans ma chronique, j'en parle plus ou moins. Hein.
Bah justement, ça tombe bien, on va y arriver.
Mmh. Oui, non, potentiellement. Moi, je sais que c'est une passade, donc comment j'y remédie ? J'y remédie pas vraiment. Je sais que c'est
ça
comme
passe.
Ça et que je sais que mon caractère est comme ça, donc ça passe. Et puis, je le vois pas forcément toujours de façon négative. Je le vois surtout comme une espèce de trait de caractère qui fait que... Donc, je me mets à l'écart et puis après, ça va mieux. Et puis, je revois des gens et puis ça se passe bien. Et puis, voilà.
Ok. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas plus à ajouter, qu'à vrai dire, on a... Marine répond déjà à la question.
Ouais, je pense que ça répondra plus avec ma chronique, moi.
Eh bien,
on va pas spoiler.
Donc, c'est à Marine. Attention, coupure. Alors, nous écoutons désormais Marine. C'est quand tu veux. On t'écoute.
Chère solitude, pardon. Pardon de t'avoir abandonnée. Abandonnée pour avoir de la compagnie. Mais si, tu sais, la compagnie, ce mot-là qui signifie d'être entouré d'une ou deux, voire plusieurs personnes, ces personnes qui te font connaître ce sentiment de plénitude, cette impression d'être aimée. Mais alors pourquoi me sens-je toujours aussi seule ? Plus ça va, plus je pense à toi. Ta présence me manque. Ô toi, ma meilleure amie, je reviens une fois de plus à toi. Malgré le nombre de fois où je t'ai délaissée, parfois de manière très ingrate, tu es toujours présente, là à m'accueillir, les bras grands ouverts. Que ferais-je sans toi ? Oh oui, combien de fois m'as-tu susurré au creux de l'oreille qu'il valait mieux être seule que mal accompagnée ? Combien de fois ai-je hoché la tête en signe d'approbation ? Je ne compte même plus. Malheureusement, je suis un être faible. Je tombe toujours dans cette facilité déconcertante, à la recherche d'un bonheur éphémère et factice. C'est vrai, quoi, hein ? C'est vraiment important d'être entouré. À quoi bon de vouloir maintenir des liens familiaux alors que ceux-ci sont déjà partis en éclats depuis la mort de grand-père ? Bah oui, parce qu'il faut se partager l'héritage et qu'il faut se mettre d'accord qui va recevoir quoi Et parce que papy, ce gros connard, n'a jamais écrit de testament.
C'est ça, c'est bien les papys.
Même le Black Friday, ça me paraît être un jour des plus calmes, contrairement au jour d'héritage, parce que, bah, ok, certes, tu te fais te piétiner, et puis sans le moindre scrupule, il n'y a pas de conséquences forcément. Mais je préfère qu'on m'explose la tête avec une batte simple, c'est simple, efficace et rapide, que qu'on blatère des mots dans le vent pendant des heures pour se mettre d'accord. À quoi bon vouloir tisser des liens d'amitié avec des gens au travail ou dans la sphère privée ? Déjà que tu ne peux compter tes amis sur les doigts d'une seule main, et encore. Alors oui, certes, tu peux choisir tes amis et non ta famille, mais t'es jamais à l'abri d'un coup de couteau dans le dos. Dès qu'une occasion se présente, pour le plaisir personnel et égoïste de celui-ci, il sera sans pitié. Puis bon, à quoi bon vouloir trouver l'amour quand celui-ci c'est même pas réciproque ou ça dure que pour un temps déterminé ? Oui, oui, c'est vrai, même dans le monde du travail, ton CDI, tu peux l'arrêter, mais avec un préavis. Avec l'amour, non, un rien peut tout détruire d'un coup. Puis il y a juste à regarder l'émission le jour où tout a basculé pour comprendre le concept. Oh, et puis merde, hein. Ça me fait chier de devoir travailler une image qui ne me reflète pas forcément, juste pour se faire accepter dans un groupe. Et peu importe, hein, tu seras toujours tu seras toujours catégorisé de marginaux pour certains et de conformiste pour les autres. Oh, et puis ça me saoule, hein. Faut toujours surveiller à tout bout de champ ses moindres faits et gestes pour ne pas froisser les autres. Pourquoi les gens s'entêtent-ils à te rejeter ? Pourquoi s'entêtent-ils à se casser la tête pour un bonheur éphémère et fugace, qui, au résultat, te fait plus souffrir qu'autre chose ? Et pourtant, toi, solitude, si discrète, tu es à la fois quelqu'un de réconfortante, douce et apaisante, surtout lors des moments les plus sombres. Aucune pression, aucun jugement, tu prends toujours le temps pour moi. Tu es peut-être bien la seule à ne m'avoir jamais blessée. Penses-tu qu'un jour, il n'y aura plus personne pour se mettre en travers de notre chemin ? Mais crois-tu que notre relation est vraiment saine ? Ne serais-tu pas possessive ? Dis-moi vraiment, n'essaierais-tu pas de m'empêcher de vivre en totale liberté ? Dans tous les cas, sache que je t'aime.
Eh ben, j'ai trouvé ça vachement bien. ok. Bon, que dire après ça ? Parce qu'il faut quand même reprendre. Alors, c'est pratiquement une déclaration d'amour un peu à la solitude, Marine.
Oh oui.
Parce que tu aimes beaucoup être seule, finalement.
Je pense bien. C'est même un défaut chez moi.
Est-ce que c'est un défaut ? Est-ce que c'est une qualité ? Savoir se préserver des autres, parce que je pense que c'est ça, ta motivation.
Entre autres, mais...
Pourquoi tu aimes être seul et pourquoi tu as préféré plutôt t'éloigner des autres que qu'être avec eux ?
Ben, comme je disais précédemment, il n'y a pas de souffrance. Au moins, tu ne te prends pas la tête pour des petites choses parfois futiles.
La vraie question, c'est est-ce que tu aimes être seul ou est-ce que tu aimes être avec tes chats ?
C'est vrai que je me suis posé la question la dernière fois et je me dis, c'est vrai, je vis seule, mais il y a quand même mes chats qui me tiennent compagnie. Et des fois, si je me sens seule, parce que tu vois, ils travaillent pas, ils payent pas de loyer, ils foutent rien de la journée, c'est moi qui change la litière, qui les nourrit, donc ouais, il y a des moments où je me sens bien seule là-dessus.
C'est des chats quand même, je veux dire.
Et alors, sachant que je subis beaucoup de harcèlement ces derniers temps par un de mes chats parce qu'il veut tout le temps des câlins. Et oui, un chat, ça harcèle aussi.
Au final, revenons à la raison de ta solitude. Pourquoi, finalement, si j'ai bien compris ta chronique, les autres sont source de souffrance, hein, pour toi ?
Je pense que j'ai surtout été déçue pendant de bonnes années de ma vie par les gens. Et ça serait plus au niveau de la famille et de l'amitié. Parce que mon rapport avec l'amour, là-dessus, j'ai toujours su bien me protéger pour ne pas trop me sentir seule.
Et donc, c'est bon, ça veut dire quand même que même tu te méfies même des gens qui sont les plus proches de toi.
Ouais, il y aura toujours un petit côté, des fois, il y aura des moments où.
Et après, te connaissant, et beaucoup plus que pratiquement, je pense, toutes les personnes autour de cette table, bien que je connaisse mal Alex, t'es quelqu'un qui, par exemple, va choisir, après avoir vécu un moment, peut-être 3-4 jours, où t'as été entouré de tous les autres, qui va décider vraiment de se refermer sur sa bulle. Pourquoi tu as besoin, toi, de te refermer sur ta bulle, qu'est-ce que tu trouves? Qu'est-ce que tu fais pendant ces moments-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu te ressources? Et je dirais que ça va même plus loin, parce qu'il y a la bulle ici à Dijon, et puis il y a la bulle, visiblement, quand tu pars voir ton père, qui est très loin et très isolé d'ici, parce que si Marie... a quand même une certaine palme sur le fait d'être vivre dans le trou du cul, d'être née dans le trou du cul du monde. Marine a sûrement partage sûrement ce détail avec toi, puisque entre Meurthod et Châtillon-sur-Seine,
non,
doit y avoir
j'habitais
débat.
J'habitais à Voulaines-les-Templiers.
Oui, mais
c'est le dernier village dans les pages blanches.
Alors,
je pense que c'est pire.
Alors, je pense qu'on fera un bingo bientôt des émissions Dimanche Dépression. Il y aura une case. Marine nous rappelle qu'elle habitait à Voulaines-les-Templiers. ouais, et pourquoi, voilà, pourquoi, qu'est-ce que tu trouves, et surtout, comment à un moment tu te dis, bah voilà, faut que je me replie, qu'est-ce que tu fais, et pour que tu puisses repartir et que tu puisses renouer avec le monde, entre guillemets,
la remise en question déjà. J'ai besoin de, ouais, j'ai toujours eu besoin de souffler un peu parce que je trouve qu'il y a toujours beaucoup trop de pression par les gens, même. Inconsciemment, tu vois, c'est pas forcément volontaire, mais il y a un besoin de respirer. Et... Puis, ouais, j'aime bien être seule parce que ça me permet de rêver aussi, d'imaginer d'autres choses par rapport aussi à mes projets et tout, et j'ai vraiment besoin de ça.
Donc tes projets, définitivement... Oui, parce qu'on oublie de dire que, pour ceux qui nous découvrent avec cette émission, que Marine, elle est graphiste, donc elle est plutôt créative, et que donc elle a besoin de temps pour créer, tout simplement, déjà, de base. Et pour imaginer, non ?
Bah ouais, puis bah, sachant que je veux faire aussi mon projet roman illustré, faut que je prenne le temps pour ça. Il y a des fois, j'ai besoin juste de m'isoler pour pouvoir y réfléchir correctement et sainement, sans avoir toute pensée négative que j'ai pu recevoir entre-temps par ce qui m'entoure.
Et alors, c'est quoi le moment où tu vas te dire, c'est bon, là je suis ressourcé, et voilà. À partir de quel moment ? Est-ce que c'est un moment où tu dis je suis ressourcé, ou est-ce que c'est un moment où tu dis j'en ai marre d'être seul, ou est-ce que c'est en fait t'as rechargé tes batteries, ou est-ce que c'est plutôt bah, un moment où je suis prêt à accepter les autres parce que là en ce moment je me fais trop chier ?
Ça dépend, là, ces derniers temps on m'a plus récupéré qu'autre chose, sinon je pense que je me serais isolé un peu plus longtemps.
C'est-à-dire que t'attends que les autres viennent te chercher. C'est parce que les autres viennent te chercher que tu romps avec ta solitude.
Ouais, c'est souvent comme ça. C'est rarement... Bah, j'ai déjà fait, mais c'est vrai que comme je te dis, ça devient un véritable défaut parce que bah, je m'habitue très vite en fait, à la solitude qu'à l'inverse.
D'accord. Qui se sent proche de la vision de Marine, qui a envie de partager avec nous autour de la table ? Dis-moi, Alex.
Bah ouais, moi je partage pas mal ton point de vue sur le fait d'avoir besoin de s'isoler un petit peu. Et pour revenir sur ce que je disais avant, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que après par exemple la soirée dont je parlais où je me sentais pas mal seul, et ben j'avais besoin d'être seul, mais chez moi en fait, et c'était totalement différent. Pourtant dans les deux cas je suis seul, mais vraiment d'être tout seul chez moi, je le sens vraiment différemment que d'être seul au milieu d'un groupe. Et pour répondre à ta question de à partir de quel moment on sent qu'on est bon, qu'on a fait le plein de solitude et qu'on peut repartir vers les gens, moi j'ai pas trop de réponse à ça, ça vient un petit peu tout seul, mais d'y avoir un petit peu réfléchi, j'ai l'impression que c'est juste qu'en fait j'ai pas trouvé le bon équilibre. C'est-à-dire que je fais des hauts et des bas. Je fais une journée où je vais passer ma journée avec plein de gens, avoir plein de gens, et le lendemain où j'ai besoin d'être tout seul. Et la journée d'après, c'est plein de gens, etc. Et je me suis rendu compte, j'avais passé une semaine juste avec un ami, toute la semaine avec un ami, et au final, j'ai pas du tout ressenti le besoin de m'isoler, d'avoir un moment seul. Donc je pense que c'est juste qu'on doit trouver notre équilibre et arriver à... Ouais, c'est ça, à trouver notre équilibre pour... pas faire des hauts, des bas et garder un rythme constant, on va dire. Voilà.
Non, parce que je voulais rebondir sur le fait où tu te sentais seul en groupe, mais parce qu'en fait, je pense que ça va plus souffrir parce que c'est une solitude involontaire et quand c'est toi qui choisis, forcément, c'est plus facile.
Il y a soit ça, soit parce que quand tu es seul au milieu d'un groupe, tu ressens peut-être quelque part le jugement des autres ou leur indifférence, alors que quand tu es tout seul, tu vois pas, il n'y a pas de regard des autres sur toi.
Ouais. Oh non, je suis d'accord avec ça. Ouais. C'est la pression du groupe, c'est sûr que ça joue toujours sur toi.
Marine, quelque chose à ajouter ? C'était, tu voulais parler avant Laurent.
Non, je l'ai dit. Ah, non, mais il n'a pas écouté.
Excuse-moi, j'étais dans un double truc. Ok, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Rien du tout.
Vous n'avez rien à dire, Marie, Bat?
Bah, en fait, de toute façon, je vais en parler dans ma chronique aussi après. Moi, je suis quelqu'un clairement qui n'aime pas être seul. Ça, c'est sûr. J'ai du mal. Je ne sais pas. Enfin, c'est pas que je ne sais pas m'isoler. C'est j'aime pas être seul. C'est comme ça. J'ai besoin d'un brouhaha. Je suis né dans une famille qui était très très bruyante, qui est tout le temps sur toi, qui passe son temps à être limite parfois intrusif les uns avec les autres. Avec qui. Alors, autant c'est marrant parce qu'on est très respect. Enfin, on nous a toujours expliqué qu'il fallait respecter les limites, c'est-à-dire de la chambre, des choses comme ça, qu'on rentrait pas dans l'intimité de l'autre, mais on peut pas s'empêcher d'être les uns sur les autres tout le temps. Et limite, si à un moment il y en a un qui est isolé, on s'est obligé d'aller le faire chier, tu vois, et de venir le chercher. C'est comme ça. Et limite, c'est devenu un peu pour moi un mode de vie. J'ai besoin de ce brouhaha là, j'ai besoin que ça vive. J'ai, tu vois, maintenant, un soir tout seul, je me disais, est-ce que je suis vraiment tout seul le soir quand je suis chez moi, etc. En vrai, non. J'allume mon PC, je mets Overwatch et je me connecte, je crée une faction sur, enfin pas une faction, mais une escouade sur Overwatch et je raconte des vannes et je fais de la merde jusqu'à pas d'heure. Et c'est ça, à vrai dire, ce que je fais. Donc c'est que, en fait, je suis jamais seul chez moi. Quand j'ai mon fils, bah, encore moins. Mais au final, puis je pense que maintenant que ça fait 4 mois, 5 mois, 6 mois, près, ouais, 4 mois qu'on se côtoie, au vu du nombre de soirées qu'on a pu faire chez moi, au nombre de fois où on a fait des choses ici, ça prouve que franchement, voilà. Et j'ai même eu une discussion avec toi, où un moment où j'étais pas forcément très bien, tu m'as dit, mais prends du temps et isole-toi. Et je t'ai dit, mais non, enfin, c'est pas possible. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai fait?
C'est dommage.
Bah non, parce que si tu veux,
parce
la seule fois...
Parce que la solitude a une vraie utilité.
Alors, je vais te raconter une petite anecdote, et ça commence toujours comme ça. Je vais te raconter une petite anecdote.
Mais tu feras ta chronique.
Non, mais une autre anecdote. L'année dernière, je suis passé à peu de choses du burn-out. Et mon médecin m'a arrêté un mois et demi. Ça a été le mois et demi le plus long de toute ma vie.
Oui, non, mais je parle pas de rester un mois et demi sans rien faire. Bon, c'est pas, de toute façon, c'est
non,
pas
non, mais
grave.
Attends, je voyais personne parce que tout le monde travaille très vite. En fait, le monde, il travaille autour de toi, il vit autour de toi. Quand j'étais de soir, quand j'étais de nuit, quand je bossais de nuit, c'est pareil, je voyais plus personne. Et en réalité, ça me pèse. Plus voir personne, ça me fait chier. Et j'aime pas être tout seul. Quand bien même j'ai plein de choses à faire, en réalité... ça me fait chier de les faire, tu vois. Combien de fois j'ai écrit des chroniques de Dimanche Dépression ou d'autres podcasts en étant entouré et en me disant, en fait, ça me fait chier, j'ai pas envie de le faire, je préférerais encore être avec la personne avec qui je suis, tu vois. C'est plutôt ça. Mais c'est pas parce que vous kiffez la solitude que les autres sont obligés d'être
vous.
Non,
mais j'ai fait une chronique psychanalyse, alors on en parlera après, parce que justement j'explique la portée de la solitude sur le truc. Mais qu'on ne croit ou qu'on ne croit pas, hein. Après, on pourra en discuter.
Non, mais je vois pas pourquoi il faut voir la solitude de façon très péjorative. Il y a du bon comme du mauvais. Hein.
Mais je ne le vois pas de façon péjorative. Je dis que ce n'est pas un de mes modes de fonctionnement. Moi, je ne me ressource pas par la solitude. Quand j'ai besoin, et d'ailleurs, ça, je pense que ce sera un des drames et un des deuils de ma vie, je le conçois dans le collectif, par exemple, familial. C'est-à-dire que je vais pas bien. Ouais, je vais rentrer chez moi, je vais me prendre la tête pendant 2 jours avec mes parents, mais de façon monstrueuse et frontale. Je vais, bouffer comme c'est pas possible. Au bout de 3 jours, je vais faire oh, « qu'est-ce que j'ai besoin de repartir ?» Parce que j'en peux plus. Et je vais rentrer chez moi, mais bizarrement, ça ira mieux. Parce que il y a eu tout ce bordel-là, parce que d'un coup, il y avait tout ça. Et je pense que, bizarrement, le jour où ce foyer va disparaître, le jour où mes parents seront plus là, tu vois, mon père a dit un truc qui m'avait marqué au décès de ma grand-mère. C'était donc c'est le dernier parent qu'il avait. Il a dit maintenant que quand il m'arrivera une merde, chez qui j'irai me réfugier. Et ben là c'est pareil. où est-ce que je retrouve mon foyer, où est-ce que je retrouve ce collectif-là. Et je ne le retrouve pas dans la solitude. Voilà, c'est tout.
Mais je pense que là, ce qu'on décrit juste, c'est la différence entre quelqu'un d'extraverti et quelqu'un d'introverti. Quelqu'un d'introverti, pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de la solitude pour se ressourcer. Quelqu'un d'extraverti, c'est quelqu'un qui a au contraire besoin de plus être vers les gens pour se sentir mieux. Pour moi, c'est ça la grosse différence qu'il y a là, du coup, d'un coin à l'autre de la table.
Mais tu serais surpris parce que je pense que les gens sont ma principale menace et c'est à la fois ma plus grande force et ma plus grande faiblesse. En réalité, les gens, ça me rend fou, moi. Ils passent son temps à me juger, ils passent son temps à... Voilà, j'aime pas être avec les gens. Et à un moment où, en plus de ça, quand je suis pas en maîtrise, où j'ai pas l'impression de m'exprimer, où j'ai pas l'impression d'être justement dans le collectif, ça me rend fou. Et j'ai l'impression d'être perpétuellement incompris. Mais simplement, il est vrai que je préfère autant qu'ils me comprennent pas et d'aller de l'avant, plutôt que d'être seul et de passer des questions et de me poser des questions que je ne peux pas résoudre sans eux.
Ouais, voilà. Okay.
Bon, sur ce, la coupure n'est pas piquée des hannetons. C'est l'histoire d'un chanteur canadien qui se demande perpétuellement où il va mettre sa voiture. Il est comme ça, il avance au gré du vent. Et puis, un coup, il ouvre sa fenêtre et il dit à son ami : « Je me gare où ? » Il dit : « Mais c'est toi ! » Et ben voilà, nous lançons donc la coupure du milieu avec Seul de Garou. À tout de suite.
Que je continuerai jusqu'à ce que j'en crée, que je seul enfant de son lit, ce lambeau de la nuit.
Alors, c'est parti. Chronique. Ah oui, d'ailleurs, attendez, avant de faire ça, ça, c'est bon. C'était au printemps 2016. Je m'en souviens comme si c'était hier. Cela faisait plus ou moins 6 mois que j'avais quitté la mère de mon fils. Il se trouve qu'après plusieurs circonvolutions sentimentales, je m'étais entiché d'une jeune fille de 10 ans, ma cadette. J'habitais Dijon. Elle faisait ses études à Toulouse. On se voyait quand on pouvait. Ainsi, il y avait eu une première fois chez elle, puis une autre fois lors d'un détour par Paris, etc., etc. Notre emploi du temps se résumait à végéter, baiser, mater des films, baiser, manger, baiser, dormir, baiser. À bien y réfléchir, je crois qu'on baisait beaucoup. Et puis les vacances de Pâques approchaient. Elle avait une semaine. Nous comptâmes les jours. On fantasma nos futures nuits, on rêva nos jours ensemble. Elle prit ses billets de train pour Dijon. Et elle arriva un soir d'avril chez moi. Je sus, dès les premières minutes où elle passe à ma porte, une chose. Je ne la supportais plus et j'allais la quitter. Cela m'amena à une des scènes les plus incongrues de cette année-là. J'avais promis à une de mes amies de venir la voir dans les confins de la Saône-et-Loire. Alors, bonhomme allant, je mettais mon étudiante dans la voiture et nous voilà tous deux à descendre à travers la plaine. La situation était un peu tendue mais restait raisonnable. Alors que nous passions aux abords de l'abbaye de Citeaux, voilà qu'elle m'explique qu'il lui semblerait impossible de rentrer dans les ordres. Et c'est alors que je lui argua que mon rêve, c'était de finir chez les moines. Alors oui, peut-être, sur le moment, étais-je influencé par mon agacement latent. Cependant, j'ai toujours été ambivalent sur la question de la solitude. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime être entouré. J'ai été élevé dans une famille bruyante, et à ce titre, le silence me fait peur. J'ai besoin de musique, de discussion et d'engueulade. D'ailleurs, je ne dors jamais aussi bien que la porte ouverte avec du brouhaha en fond. C'est pour ça qu'une fois sous la couette, en quête de sommeil, j'écoute des podcasts. Bienvenue sur France Culture. Ce soir, dans l'émission Philosophie, on reçoit Maurice Broutou et Corentin Michel. Et on va parler de la question de l'empirisme chez Kant. Et tout de suite, un petit Miles Davis. Cependant, j'avoue un certain épuisement quand il s'agit de mon prochain. Je vais vous le dire franchement. Les autres êtres humains, les conventions sociales, les obligations qu'elles supposent m'emmerdent. Oui, le flot d'informations continuelles me fatigue. Oui, être confronté chaque fois que je sors de chez moi au bruit et à la présence de l'humanité me gave. Oui, devoir lever les yeux de ma vie pour regarder mon prochain et lui dire bonjour est déjà une épreuve. Parler avec les autres, quel putain de plaie. Franchement, être confronté au chaos quotidien du monde, devoir se battre pour chaque échange, ne plus avoir le temps de penser à méditer, quel désespoir. Le monde aujourd'hui nous impose un avis sur tout. Les gilets jaunes, bien ou pas bien? L'écologie doit-elle se faire au détriment des pauvres? Les Anna et Thomas de la télé-réalité devraient-ils se remettre ensemble? Pain au chocolat ou chocolatine?
Cette dernière question n'était pas légitime.
Tous ces débats précités nous sont imposés avant même de sortir chez nous. Une fois au boulot, c'est pire. Tous les philosophes du 19e siècle, les pontes du néolibéralisme, nous avaient promis une société où tout le monde tirerait dans le même sens. C'était pour le meilleur, nous disait-il. Descartes avait même balancé « Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée ». Mais c'est faux. C'est la connerie. Le monde est peuplé de cons. Dans notre milieu professionnel, pour chaque pierre que nous construisons, pour chaque valeur ajoutée que nous apportons, pour toutes les fois où nous sommes sentis heureux d'avoir accompli quelque chose, il y a toujours eu un René ou une Corinne qui l'a défait d'un coup de coude parce que « Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait ». Il m'arrive bien souvent de finir certaines de mes journées en rêvant d'un briquet et d'un bidon d'essence. Et ne te méprends pas, journaliste de BFM ou du bien public. Ce n'est pas de la haine, c'est juste de l'exaspération. Et après, il faudrait que je sourie, que je serre la main et que je dise bonjour. Vous n'êtes pas bien les gens. Mais attendez, il faut boucler la boucle. Tout cela, on pourrait à la rigueur se l'éviter. Mais con que nous sommes, on se marie et on fait des cosses. Eux aussi, il faut les supporter. Combien de chaînes on se donne, combien de fois on soupire. C'est ce qu'on appelle le sens du devoir. À l'intérieur, on hurle. Mais putain, pourquoi tu t'es encore chié dessus? Ou encore. Mais oui, on va manger avec ta mère. Et non, ça ne me fait pas plaisir, car c'est une grosse pute, donc arrête de m'en parler. Et pourtant, on ne dit rien. On fait avec. Donc oui, alors qu'on longeait si tôt, oui, j'ai fait quelques arguments. Rappelons la règle de l'ordre des cisterciens qui sont celles de Saint-Benoît. Le silence est de mise. Chaque jour, il y a un temps pour le travail manuel, un temps pour le travail spirituel et intérieur, et autre lecture. La journée est rythmée par les offices de prière et comprend 2 à 3 moments communautaires pour manger. En autre terme, nous ne sommes pas réellement seuls au sens strict du terme. Nous ne faisons pas rien non plus. Non. Nous vivons dans un espace maîtrisé. Attendez. Je dirais même un espace maîtrisé où chacun ferme bien sa gueule. Le rythme de la vie est ordonné, régulé, immuable et prédictible. Comme il est dit dans l'Ecclésiaste, un livre de la Bible pour les profanes, il y a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. Vivre dans un monastère, ce n'est pas être seul, c'est redonner du temps en se concentrant sur l'essentiel. C'en est terminé de l'économie de l'attention. Il n'y a plus rien pour polluer notre esprit. Nos obligations sociales sont cantonnées aux nécessités de la vie en communauté. Fini les autres, fini les collègues, fini les chefs, fini les instants perdus. Râle cul, fermons le rideau. Plus de famille, plus de gosses et surtout plus de toi, râle cul de toi, rentre chez toi, tu m'épuises, j'en peux plus. T'es trop jeune, t'es trop chiant, t'es trop vénal, t'es encore là pour 3 jours, mais comment je vais faire, putain? En réalité, je n'ai rien dit de tout cela. Je me suis tu. Il n'y avait rien à ajouter. On a passé la fin de la semaine ensemble sur le rythme suivant. Boulot, baise, série, baise, bouffe, baise. Je la larguais au matin du samedi, alors qu'elle venait d'apprendre que sa mère venait de faire une tentative de suicide. Pfff. Jusqu'au bout, elle a arrêté dans le mauvais goût. Je rentrais chez moi dans mon appart vide depuis le départ de mon ex-femme, et j'allumais une cigarette. Enfin seul. Bientôt moine ? Oui. Il serait bon que j'apprenne à maîtriser mon temps, que je coupe plus souvent mon portable, que je coupe plus souvent mon PC, que je revienne à l'essentiel, pour me retrouver, profiter des couchers de soleil, sentir le temps qui passe, réfléchir au sens de la vie, tout ça quoi. Bon, alors soyons clairs, l'épilogue n'est pas très concluant. Dans les 6 mois qui ont suivi, je refais tout le mobilier de mon appart, racheter une télé. J'ai lancé mon premier vrai podcast, joué plus d'une centaine d'heures à Overwatch et binge-watché les 7 saisons de Buffy. Au bout d'une semaine, j'avais même déjà rencontré une nouvelle fille. En même temps, faut vraiment être con pour faire du fromage aussitôt.
Il paraît qu'il est très bon. Ceci dit, j'aime pas le fromage, donc je ne porterai pas de jugement dessus. Alors, donc toi, la solitude, c'est ambivalent, ta vision de la solitude. C'est genre, tu la désires quand tu en as marre des gens.
Ah mais complètement. En fait, c'est pas
ça. Et puis finalement, après, il se rend compte que non.
Oui, c'est bah, j'ai l'impression que tu en as marre des gens et que c'est pas comme le cas de Marine. Où les gens la fatiguent à cause de la pression psychologique, etc.
Non, et puis même, les gens, ils sont chiants. Déjà, moi, pour travailler dans le commerce... Ouais, très vite, j'ai envie de me retrouver seule à chaque fois, tu vois. Rien
alors, que ça. Les gens fera l'objet d'une autre, d'une autre émission.
Oui, oui, c'est prévu d'ailleurs. En plus de ça, il y a une vraie émission qui s'appellera Les gens.
Voilà, ah. Parce que les gens, c'est aussi déprimant.
C'est casse-couille surtout. Parce qu'ils existent.
Donc toi aussi, c'était un appel, un amour, une lettre d'amour à la solitude, mine de rien.
Bah oui, mais en fait, voilà, mon problème, c'est que c'est très ambivalent. C'est ce qu'on disait juste avant de faire la coupure. C'est que si tu veux, moi, mon enfer, c'est les autres, complètement. Je suis très sartrien là-dessus. Sincèrement, les gens me gavent. Je me souviens très bien de cette discussion, parce qu'en fait, on a quand même eu la discussion où je pense qu'elle s'est sentie très seule, la fille, où elle s'est dit que ça devait être cuit. En gros, je me disais, t'arrives à 65 ans, t'as des gosses, ton gosse il a pratiquement 30 ans, il commence à avoir des petits enfants, il commence à te demander de la thune, t'es pas si loin de la retraite, t'es dans pas mal d'obligations, t'es dans pas mal en fait de représentations sociales, et là à ce moment là bah à vrai dire, ouais, ça me dirait 100 fois plus d'aller dans un endroit, enfin, de plus avoir à faire les politesses, de plus avoir à dire bonjour, de plus avoir à supporter ce voisin qui je sais pas, fait la teuf à 22h et qui te fout la merde, de plus avoir à supporter tes petits-enfants, de plus avoir à supporter cette femme que t'as peut-être depuis 35 ans. Enfin, notons que tout ça est dans une vision assez noire, hein. Je suis peut-être pas forcément aussi extrémiste que ça.
Ouais, il y en a pour lesquels avoir des enfants, une femme, tout ça, c'est un idéal de vie, au contraire.
Non, mais je comprends cet idéal de vie. Je dis juste à un moment que je me vois pas aller jusqu'au bout dans ça, et j'ai peut-être un moment, j'aurais plus envie de faire l'effort du social. C'est-à-dire, tu vois, je te dis, arriver, dire bonjour à toutes les petites blessures de la vie où t'es poli, tous les petits moments où tu fais une concession pour les autres, et à un moment, bah, rentrer dans un système où, à vrai dire, très ordonné, très réglé, hein, faut pas se dolorer, hein, la règle bénédictine.
Oui, en fait, toi, tu voudrais la solitude pour pas avoir les conventions sociales, quoi, en gros.
Exactement. Et parce que c'est maîtrisé. Et à vrai dire, ouais. Soyons clairs, dans la règle de la règle de Saint-Benoît, oui, t'as une partie qui est fait délégué au travail de l'abbaye, mais c'est souvent généralement pas pour faire des fromages comme Assito, mais pour ne serait-ce que se faire à manger, pour en fait là avec le potager pour tout le monde, etc., etc. Voilà, tu travailles à ta propre subsistance, et en même temps tu parles plus avec les autres à part pendant des moments bien précis. T'es en communauté très très petite, donc en fait tu peux compter sur les autres. Et en même temps, tu peux, t'as du temps pour faire de la théologie, des choses comme ça, y réfléchir. Et justement, il y a le silence. C'est marrant de dire ça, mais il y a le silence. Et il y a le silence pour toi.
Ce que je comprends pas, c'est qu'en faisant ça, tu substitues les conventions sociales à un autre système de règles.
Oui.
Du coup, c'est servir au même.
Oui, mais c'est un système de règles en fait où t'as beaucoup plus, à la fois beaucoup plus d'espace et beaucoup plus... Oui, mais j'en suis parfaitement conscient. J'ai simplement qu'il est, prédictible. Le système bénédictin, il est prédictible. Tu sais comment ça va commencer, tu sais comment quand ça va s'arrêter. Ta journée, elle est ultra prévue et réglée. Moi, honnêtement, tu me lèches tout seul, je ne suis pas capable d'être aussi discipliné. Tu me lâches tout seul. Ouais, tu me laisses. Bah, tu vois, c'était un compromis entre lâche et laisse.
Et du coup, ça fait lâche tout seul. Dégueulasse.
Donc, tu me laisses tout seul ou tu me lâches tout seul. Je suis pas capable. Je suis pas capable de m'autodiscipliner. Et de deux, j'ai 150 conventions sociales qui vont venir rentrer en adéquation. Tu sais, c'est des trucs un peu tout con. C'est. Je suis en train d'écrire ma chronique et d'un coup, L'exemple type de ça, c'est le PC. Si tu l'éteins pas, c'est la mort. D'un coup, t'es en train d'écrire ta chronique, d'un coup, t'as Laurent qui fait « Et c'est à quelle heure ce soir ?» Et puis, il y a toi derrière qui me fait « Eh, et on met quelle chanson ?» Et ainsi de suite. Et tu réponds à toutes ces sollicitations. Mais dans la vraie vie, tu le fais aussi. En réalité, t'es rappelé par ton ventre, t'es rappelé par tout ça, et t'es rappelé par plein de choses, t'es rappelé par ton gamin que tu dois aller chercher. Au final, cette semaine, tu vois, par exemple, j'étais en vacances, mais ma vie a été super emmerdée par plein de choses. Je voulais faire plein de choses, mais je n'ai jamais pu, parce que t'as 150 000 trucs, petits trucs à faire. Et d'un coup, se retrouver dans un système où ces 50 000 petits trucs, ils sont abrasés et il ne reste que l'essentiel, bah pourquoi pas. Et je suis bien d'accord que ça reste une règle, que ça reste quelque chose. Ça reste tout autant une convention que les conventions sociales, simplement elles sont réduites à son plus simple appareil.
Moi, je pense que tu cherches plus à éviter les conventions sociales qu'à chercher la solitude, en fait.
Mais en même temps, ça revient au même. Quand t'es seul, t'as
non, pas parce que je suis pas sûr que. Enfin, je pense que s'il y avait d'autres moyens sans être forcément seul, tu l'aurais choisi aussi. Enfin, en fait, tu réponds plus à la question comment éviter les conventions sociales et comment échapper aux gens. Je pense que tu parles plus en fait des gens que vraiment de la solitude. Et je sais pas si t'es totalement dans le sujet, dans vraiment cette volonté de solitude. D'autant plus que tout à l'heure, tu disais que tu n'étais absolument pas capable de l'être.
Oui, donc, mais c'est sûr. Mais je...
En plus qu'en fait, tu vis quand même en communauté. Alors, est-ce que tu es vraiment seul, etc. Enfin, je sais pas, c'est...
Ah, mais tu leur parles pas. T'as ta propre
chambre.
Non, mais
je pose juste la question, après, voilà. Une fois, la solitude après... a une définition tellement large que...
Après toute la vraie question, c'est comment tu échappes aux conventions sociales, si ce n'est être seul. Ah, là,
pourquoi
là,
t'es obligé de toujours agir comme
parce que c'est toi. Mais peut-être que j'avais juste envie de parler de ma rupture et de souligner à quel point c'était drôle.
Il faut vivre en ermite, ça c'est bien.
Bah, vivre en ermite, c'est être
mais
seul.
Mais non, mais tu vois, attends. Parce que moi, ce qui me ferait vraiment kiffer, c'est d'avoir ma petite maison, mais perdue dans une petite forêt, près d'une rivière, où t'as ton petit potager, tu fais ton électricité toi-même, tout ça, sans personne.
Mais je serais pas tout à fait contre ça. Je dis simplement que je préfère un point médian de solitude. Parce qu'en réalité, c'est pas. Je suis d'accord avec vous. On vit en communauté, c'est-à-dire que j'aurais plaisir à travailler ensemble, à faire quelque chose ensemble, et que je pourrais pas, et que la communauté me fait me discipliner. Voilà.
Mais oui, mais tu me piques le micro et puis je peux pas parler. Enfin, bref, je voudrais adresser un petit fun fact comme ça. Il y a en Haute-Saône une abbaye, j'ai oublié son nom exactement, mais les moines, ils font pas du fromage ou de la bière ou cultiver un potager. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils font de la couverture pour les toits. Donc ils sont en bleu de travail, etc. Et puis il faut aller chercher des clients, tout ça. Donc finalement, les moines, à l'heure actuelle, est-ce qu'ils sont vraiment exempts de conventions sociales, tout ça, parce qu'ils doivent quand même vivre avec le monde.
Alors en réalité, tout dépend en fait de l'ordre. Par exemple,
je sais pas s'ils sont bénédictins, effectivement.
Ceux qui sont strictement bénédictins ne doivent pas parler. Et il y a en fait souvent un moine dédié au social. C'est-à-dire à tourner vers les autres. Mais si tu veux, par exemple, les moines trappistes qui font de la bière en Belgique, normalement, ils suivent l'ordre bénédictin et ils ne parlent à personne à part celui qui est tourné vers la vente.
Non, mais je voudrais revenir sur un truc. Malgré tout que tu n'aimes pas être seul, mais, parce que je vais en revenir sur les réseaux sociaux, mais le fait qu'on a quand même... Maintenant, il y a la possibilité d'avoir beaucoup d'amis sur Facebook, mais on ne se parle quasiment jamais avec les gens. Et ça ne te fait pas sentir seul, ça ? Ça te pèse pas non plus cet aspect-là ?
Alors, je vais te dire un truc assez simple. En réalité, c'est pas, ça me fait pas me sentir seul. Ça me fait sentir nul, plutôt. Parce que moi, les réseaux sociaux, c'est un outil. C'est un outil pour me faire connaître, pour vendre mes podcasts, etc. Ça, c'est ça. Donc, quand ça marche pas, à vrai dire, c'est un défi. Pourquoi ça marche pas, pourquoi j'ai envie de relancer. Je me sens pas seul sur les réseaux sociaux, je m'en fous un peu. Je me sens seul davantage quand je propose une soirée et que personne n'est là. Quand je vais te dire mon sentiment de solitude le plus fort, alors
ça va venir
très partant. Non,
il est en train de se régler le fond du crâne et tu vas retrouver
il est là mais je sais pas dans quelle mesure. Voilà, mon sentiment le plus fort, c'est quand tous mes potes font un barbecue et que je suis bloqué chez moi parce que j'ai mon fils à la maison.
Non, mais il faut le mettre au congélo, hein.
Mais on est d'accord, mais il pourrait toujours revenir. Enfin, toi, après, tu le confonds entre la barbac et tout. Non, c'est pas terrible. Et moi, bouffer du bébé, c'est pas mon trip. Hein, voilà. Mais en fait, mon sentiment le plus fort, c'est voilà. Je suis bloqué chez moi. Et les autres, ils sont dehors. Et je peux rien faire. Et là, d'un coup, ouais, je me sens seul. Et d'un coup, je vais te dire, je me sens tellement seul que je ne sais pas quoi faire. Pourtant, je pourrais jouer à Overwatch, je pourrais me mettre à un film, je pourrais dessiner, je pourrais faire plein de trucs que je ne ferais pas. Mais là, d'un coup, ça se passe plus.
Est-ce que tu te sens seul ou est-ce que tu te sens impuissant ?
Ouais, et est-ce que tu te sens seul ? Est-ce que tu te sens contraint ? Et je serais même, est-ce que tu te sens plutôt exclu, à mon avis ?
Mais non, est-ce que c'est
parce que vous avez défini comme la solitude ?
Bah en fait, c'est pour ça que la solitude, c'est pour ça que tout à l'heure je disais que la solitude a plusieurs définitions. Et je pense que c'est plutôt que toi, dans ce cas-là, c'est plutôt de l'exclusion. dans ce cas-là précis. Mais pas forcément, parce que ça peut être aussi, tu te sens contraint, puisque visiblement c'est plutôt parce que ton fils peut pas, est là que tu peux pas sortir. Donc c'est pas forcément de la solitude, si tu te sens contraint c'est pas de la solitude. Et de l'impuissance, ça c'est Laurent qu'il faut qu'il le motive, qui rejoint peut-être la contrainte en fait.
Est-ce que l'abandon, c'est pas une solitude vue de façon négative ? Parce que moi, c'est un sentiment d'abandon par certains côtés. Et c'est justement la solitude.
Ben oui, ça rejoint un peu le sentiment d'exclusion, oui.
Voilà.
Mais il faut, oui, mais c'est bien, mais il faut le préciser du coup. Parce que là, on va dans le fond du sujet.
Ouais.
Voilà.
Et puis, tu peux clairement te sentir seul quand t'attends une réponse aussi, j'ai envie de dire.
Oh, il y a des gens qui veulent faire passer des messages, je le sens. Mais voilà, clairement. Ouais, c'est les moments où je me sens seul, c'est ces moments-là. En réalité, c'est où je me sens seul quand je suis dans un groupe et que je ne comprends pas les règles du groupe, par exemple.
Ou les références.
Ou les références, ou etc. Par exemple. Et après, une fois que j'ai compris et que et qu'à vrai dire, je me sens bien plus intelligent que tout ça, parce que c'est toujours le deuxième qui se coule effect, à vrai dire, je le vis bien. Je m'en bats les couilles. Voilà. Donc voilà. Mais à vrai dire, oui, en réalité, c'est rare que je me sente vraiment seul. C'est rare de toute façon que je ne sollicite pas quelqu'un pour ne pas me sentir seul. Parce que c'est quand même ça la réalité des choses. C'est généralement dans ces moments-là que quand vraiment je suis au bout du bout, tu vois, je t'envoie un message et je fais. Non, que je dis, on va aller boire une bière. Comme personne ne répond, Marine a pitié de moi, elle fait non, mais t'as vraiment trouvé personne. Non mais si tu veux on va boire un coup, et au final tu te retrouves dans un bar et t'as tout le monde qui t'envoie un message, mais au final vous êtes allé boire un coup avec Marine, et au final alors que t'étais censé être deux tu te retrouves assis autour d'une table. Voilà, histoire vécue peut-être, expérience. Est-ce que ça sonne comme une bonne soirée? Oui, c'était une bonne soirée. Enfin bon, voilà, sur ce, bah écoutez, je pense qu'on a peut-être fait un peu le tour du sujet et on va parler de quelque chose qui n'existe pas, à savoir la thérapie psychanalytique, hein, parce qu'on est bien d'accord que Freud, c'est une de la plus grosse escroquerie.
Sympa de discréditer ma chronique alors que je ne l'ai même pas faite encore. Merci, j'apprécie.
Tu peux parler de fiction, hein. Regarde, elle parlait des grises barres.
Écoute, à ce qu'il paraît, je ne dis jamais rien à Laurent, et toujours à vous, et que je suis ultra patriarcal, j'en profite, c'est tout. C'est comme ça, je respecte un schème maintenant, c'est les rôles.
C'est pas faux.
Oh, ça dénonce.
Je crois qu'elle a pas compris patriarcal.
Mais tu sais, Marie, que je t'aime profondément. Ok ? Donc on se calme.
Menteur.
Je sais, je ne suis pas dupe.
Sur ce, on va mettre le jingle dans vos chroniques.
C'est bien que t'aies pas dit ça dans le micro.
Elle a dit quoi ?
On allait te couper les couilles.
Ça dépend avec quoi vous le faites, ça n'est pas sûr que j'y prenne pas du plaisir.
Avec les dents.
Sur ce.
J'ai du doute. Hein.
Vas-y, tu peux lancer le jingle. Fais fi de nos gourganderies.
Vous êtes des gourgandins, mais je vous aime bien. Sur ce, jingle.
Avec Marine, on se bat pour le micro, alors. Je trouve que c'était extrêmement utile, cette intervention sur les moines couvreurs.
Hein, n'est-ce pas ?
Oui.
Moi, j'ai aimé.
Merci.
C'est le moment. Merci, bilan, Laurent. Pré-chronique, post-chronique, vraiment.
Non, c'est le moment de la chronique de Marie-Lucille. Marie-Lucille, c'est à toi.
Alors, j'hésitais à faire une intro musicale, je ne savais pas, et puis finalement, on est dans le feu de l'action, alors je me lance. C'est une reprise de La Tristitude, sauf que ça s'appelle La Solitude. La solitude, c'est quand tes potes peuvent pas sortir un samedi soir. C'est quand tu regardes Arte toute seule à 20h le soir. C'est quand tu te vautres à pied sur la place Grangier. Et ça fait mal, la solitude. C'est quand tu te fais plaquer le soir du 14 février. C'est quand ton frère se marie, mais que t'es pas invité.
C'est quand t'as le cancer et que dans 3 mois, tu vas crever. Et ça fait mal, la solitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est un peu de détresse dans le creux de ton toit. La solitude, c'est c'est où ? C'est eux, c'est vous. C'est ton psy qui te dit qu'il faut que tu reviennes lundi. La solitude, c'est quand t'as plus de batterie et que t'es en Géorgie. C'est quand ton fils te dit qu'il te haït pour la vie. C'est quand t'envoies des SMS à tous tes ex et ça fait chier. La solitude, c'est rêver que t'es seul quand t'es en couple. C'est rêver que t'es maqué quand t'es tout seul. C'est quand tous tes amis décident de te faire la gueule et ça fait chier. La solitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi ? C'est un peu de détresse dans le creux de ton moi. La solitude, c'est c'est où ? C'est eux, c'est vous. C'est ton psy qui te dit qu'il faut que tu reviennes lundi. Et oui, la solitude, c'est partout. Parfois, c'est dans le métro, dans le train, en manif ou chez toi. La solitude a des définitions multiples. Et Michel Hanoun nous le dit bien. Dans le mot seul, il y a 4 lettres, 4 définitions de la solitude. S comme solitaire, c'est-à-dire seul, par goût de la solitude. E comme esselé, c'est-à-dire seul parce qu'abandonné des autres. U comme unique, seul de son espèce. Et enfin, L comme libre, c'est-à-dire seul à décider. Quel est-il devenu aujourd'hui ce terme, souvent péjoratif dans nos sociétés connectées, lorsque nous sommes constamment à l'affût d'un j'aime, d'une approbation, d'un partage de posts, de photos, d'une recherche de sollicitation. Sans vouloir être exhaustif sur le sujet, parlons un peu de l'aspect psychanalytique de la solitude. On nous dit que la solitude, c'est un apprentissage dès l'enfance, en tout cas en psychanalyse, et que ce n'est qu'en acceptant, et même plus en l'appréciant comme un élément structurant qui vient de l'éducation, qu'on arrive à avoir la capacité d'être seul, que nous pouvons et que nous pourrons donc nous épanouir pleinement comme êtres humains, à la fois dans nos relations sociales, c'est-à-dire nos relations amicales, nos relations intimes et nos relations professionnelles. Plus encore, si on reprend Lacan et ses écrits autour du désir, qui disent que l'être désirant naît du manque, alors par extension, être dans la solitude, c'est-à-dire être capable d'être seul, c'est être capable de désirer. Alors comment on fait pour être capable d'être seul ? L'enfant, il doit faire l'objet d'une bienveillance. Bienveillance en 2 mots, c'est-à-dire de veiller bien, d'être veillé bien de la part de ses parents, qui doivent être à la fois sécurisants, à la fois suffisamment distants pour qu'il acquiert cette capacité à être seul et ainsi à être. Le concept de non-intégration, qui a été développé par Winnicott, qui est un pédiatre qui est devenu pédopsychiatre, qui est décédé en 1975 et qui n'appartient à aucune école particulière en psychanalyse, il explique que le concept de non-intégration, c'est l'état dans lequel l'enfant se trouve lorsqu'il n'est pas en éveil vis-à-vis de son environnement, où il peut donc expérimenter une solitude dite sereine par opposition à une solitude dite détresse. Donc si les parents veillent bien à l'enfant, alors l'enfant se trouvera dans cette situation de non-intégration et pourra se plonger dans une solitude sereine. Et la capacité d'être seul à ce moment-là se rapproche très fortement de la maturité affective qui permet de se distancier de la mère, et je rajouterai du père, et de ne pas, une fois adulte, petit clin d'œil Laurent, qui ne permettra, une fois adulte, continuer de rechercher un symbole maternel ou un symbole paternel. Et dans ce cas-là, s'il le ferait, cela pourrait traduire, pas obligatoirement, mais cela pourrait traduire une incapacité à être seul, et donc encore une fois, une incapacité à être, par extension. Cette expérience de la solitude de l'enfant, elle passe donc par la capacité à créer du vide par la mère ou par le père, à pouvoir installer une aire de vide qui soit équilibrée. Ainsi, la solitude sereine pourra, par exemple, amener la créativité, tandis que l'aire de vide mal amenée ou mal vécue ou n'existant pas, l'enfant pourra conduire à l'angoisse. Et cet état d'angoisse pourra amener à plusieurs conséquences. Alors, il y en a diverses qui sont expliquées par les psychanalystes, mais il y en a 2 principales que je vais un peu développer. La première, ça sera à rechercher de façon frénétique un vide serein. Et cela passerait par des conduites addictives qui permettraient de façon paradoxale donc à accéder à un vide qui ne soit pas stressant.
paradoxal parce qu'en fait, on se remplit pour créer un vide. Voilà.
C'est ce que j'ai dit.
Ouais. Et donc, l'addiction à des activités et des drogues pourrait constituer un palliatif qui constituerait donc un vide artificiel propice à une solitude sereine et dénuée d'angoisse. Puisque le sujet ne peut pas se plonger dans un vide qui soit serein, eh bien, il essaie de se le procurer par le biais de soit d'activités addictives, soit de substances addictives qui puissent pour lui être dénué de toute angoisse, mais
parce que
pas pérenne.
C'est ces activités en question qui constituent son vide.
Oui, les activités ou l'après-activité, comme faire l'amour, enfin voilà.
Oui, oui.
Et la deuxième conséquence qui pourrait y avoir, ce serait évidemment la recherche d'un autre, de façon frénétique, d'un amour qui se caractériserait par une relation addictive, empêchant l'individu de se confronter à l'expérience de la solitude qu'il ressent comme une détresse. Pour autant, nous dit-on, cette relation peut se transformer pour rendre au sujet sa capacité de solitude et devenir une réelle relation d'amour, de désir et d'échange. Il y a donc un petit espoir dans ce cas-là. Ceci étant, pour parler de moi, parce que j'aime bien parler de moi, moi je me suis longtemps prise pour une princesse, sans doute la faute à mes parents, sans doute la faute à Disney, je les salue tous les deux. Je pensais que l'amour pouvait tout guérir et tout sauver. Mais si l'amour peut parfois tromper la mort, elle ne l'empêche pas pour autant. J'ai cru que par mes relations amoureuses, j'allais pouvoir m'accomplir, mais cela n'était vrai qu'en partie. Je m'accomplissais à travers l'autre, avec l'autre, et lorsque la relation s'arrêtait, alors l'accomplissement s'arrêtait. Et dans le même temps, je sentais cette dépendance me peser. Peut-être que la solitude que je ressentais, et que je peux ressentir encore, n'est pas toujours sereine, mais pas systématiquement détresse non plus. Ceci étant, je n'ai réalisé cela qu'il n'y a quelques années, que l'amour n'empêchait pas la solitude, puisque personne ne viendrait me sauver, que je n'échapperais pas non plus à la mort. Et puis j'ai réalisé un peu de temps après avoir accepté cet état de fait, qui était quand même bien triste pour l'idéaliste que je suis, que cela ne constitue pas pour autant un mal. D'ailleurs, je suis là aujourd'hui, et je ne dois qu'à ma solitude d'avoir créé cette chronique. Et j'envisage mes relations amoureuses avec la prudence de la conscience, de ne pas retomber dans les mêmes écueils, pour mieux aimer, j'espère en tout cas, et pour que chacun puisse se réaliser avec le soutien de l'autre, soit, mais sans en être dépendant. Quoi qu'il en soit, de façon un peu moins égocentrée, et pour en revenir sur la société, on remarque qu'on tend vers deux extrêmes aujourd'hui. À la fois l'individualisme poussé à son paroxysme, impliquant l'exclusion des plus vulnérables, à la fois un espèce de diktat du cool, du in, du like, nous plaçant dans une position d'aliénation vis-à-vis de certaines personnes ou d'autorité. En plus, la popularité actuelle d'activités telles que la méditation ou le yoga démontre bien aussi une volonté de retour sur soi, d'une volonté de déconnexion qui pourrait être liée à la nécessité de se retrouver seul dans cette solitude sereine, d'installer une ère du vide qui nous permette d'être, de désirer, d'aimer, de créer. Alors, militons pour réhabiliter la solitude, mais pas la solitude du E comme esselé, mais plutôt celle du S comme solitaire parfois, celle du U comme unique et surtout celle du L comme libre.
Tu es unique.
Voilà, merci.
Merci à toi. C'était bien. C'était bien.
J'avais coupé mon micro.
Attends, oui, parce qu'on a des opposants. Je vous attends sur la psychanalyse, blablabla.
Bah, j'ai rien à dire sur la psychanalyse. J'ai pas compris grand chose à part le fait que les parents devaient fabriquer la solitude pour l'enfant et que je trouvais ça assez intéressant, surtout dans notre société de consommation de la formation.
Ouais, non, mais c'est bon, en fait, je parle après.
Ok.
C'est le gros de l'info que j'ai balancé, oui, c'est ça, de toute façon.
C'est ça que j'ai pas trop compris en fait, parce que tu parlais de solitude sereine et stressante.
En fait, il y a des solitudes qui sont hyper mal vécues, il y a des personnes qui peuvent pas être seules. Et ce qui est expliqué dans le livre que j'ai lu sur la psychanalyse, c'est que l'idée que pour que la solitude soit sereine et soit bien vécue, et qu'elle puisse permettre à l'individu en fait, parce que la solitude a un but en tout cas en psychanalyse, l'idée c'est que la solitude fait partie de la possibilité pour l'enfant d'être, et donc de créer, d'aimer, etc. Ceci étant, si on apparemment, encore une fois, hein, c'est soit on y croit, soit on n'y croit pas, voilà, si on n'habitue pas, entre guillemets, si on n'instaure pas des moments pour l'enfant où il soit seul, et en même temps, soit être totalement seul parce qu'il est dépendant, mais qu'il puisse, par exemple, jouer tout seul, des choses comme ça, et donc qu'il se retrouve dans cette espèce de solitude, eh bien, il y a de grandes chances, je caricature, hein, mais il y a de grandes chances qu'ils vivent, mal la solitude par la suite.
Non.
Non, bah alors après, on est d'accord, non. On n'est pas d'accord.
Non, parce que bah, j'ai mon cas.
Mais moi, si tu veux, moi je peux te dire ouais. Bah non, tu vois, je peux te dire la même chose, non, en me disant, bah oui, je suis d'accord avec ça, parce que moi, je l'ai. Voilà.
Bah non, enfin, bah moi, j'ai été, on va dire, plus ou moins contrainte sur certains aspects, et en fin de compte. Je m'en sors plutôt bien, tu vois. Au contraire, la solitude, c'est mon ami.
Tu dis que la solitude, t'as pas vécu la solitude, c'est ça que tu dis quand t'étais enfant.
C'est ce que Marie dit.
C'est exactement ce que je défends en fait.
Marie dit que quand tu as vécu la solitude.
Mais en fait, on parle pas. En fait, c'est pas la solitude.
Non, mais je veux dire pendant quand même au moins 6 ans, j'étais dans une famille. Hein. J'ai eu deux grandes sœurs, donc j'étais jamais seule, mais.
Après, je parle pas de « il faut être dans la solitude ». Là, on parle de « air du vide ». En fait, c'est un concept qui fait que tu n'es pas sollicité tout le temps, tu n'es pas sollicité constamment, mais tu as des moments où tu as une capacité à faire ce que tu as envie quand tu as envie.
Exemple.
Quand tu es petit, quoi.
En gros, exemple. Tu prends mon fils, ok ? Par exemple, moi, j'aurais tendance à toujours aller le voir en mode « t'as besoin de quelque chose, je t'aime, blablabla, bisous, bisous ». Enfin, moi, je suis très...
Ouais, t'es chiant.
Oui, bah, je sais pas si je suis chiant, mais si tu veux, dès que je suis pas sur mon fils, j'ai l'impression que je m'en occupe pas. Voilà, c'est ça l'idée. Sauf qu'en réalité, dans les moments de vide, pour un parent comme moi, t'as deux choix. Soit tu le laisses faire sa vie, c'est-à-dire le moment où en fait toi tu peux pas t'en occuper, c'est-à-dire parce que tu fais à manger, parce que je sais pas, parce que je suis en train d'écrire une chronique Dimanche Dépression, parce que tout simplement je suis en train de faire des papiers d'hiver, il y a plein de choses de la vie d'adulte que tu peux pas partager avec ton enfant. Bon, et bah t'as deux choix. C'est soit la télé parce que tu veux vraiment avoir la paix, mais attends, soit tu le laisses jouer. Là, et Marie te dit, il est mieux de le laisser jouer. Parce qu'il va avoir une vie intérieure, parce qu'il va faire plein de choses.
Oui, nous, tu parlais de la créativité qui se développait.
Par exemple, pour mon fils, c'est une évidence. Tu le laisses jouer, il va faire pendant une heure, ça va être un monde intérieur. Moi, j'ai un nombre de vidéos incalculables où il est en train de faire tout, 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 et machin, truc, bidule. Et en gros, Marie te dit, il faut qu'il y ait des plages et des moments
de vide, entre guillemets. Après, c'est difficile de définir l'air du vide. Mais oui, c'est
en
ça.
Gros, il fait ce qu'il veut, que ce soit du jeu, du dessin, de n'importe quoi, de je me roule par terre, de je saute dans les cailloux. De,
oui, il faut
tout
pas
ça.
Le couver, le gosse.
Il faut pas être tout le temps dans la sollicitation.
C'est ça, exactement.
Eh, t'as vu ? Je t'ai écouté, je t'ai compris. Eh, c'est fort quand même.
Moi, j'avais du mal à assimiler deux, c'est pour ça, ça m'a un peu. J'étais pas sûre. Forcément d'accord sur le coup, mais maintenant je comprends mieux, oui.
Donc, ouais, ok. Non, mais alors.
Moi, j'avais une autre remarque vis-à-vis de ta chronique. C'était le moment où tu dis que dans tes relations amoureuses, tu t'accomplissais à travers le regard de l'autre ou à travers l'autre, je ne sais plus.
À travers l'autre.
À travers l'autre, oui. Ouais. Et ça me rappelle un livre que j'ai vu il n'y a pas longtemps où. Ils disent que les femmes, elles s'accomplissent par le fait qu'elles sont valorisées par l'autre. Alors que les hommes, ils sont valorisés par le fait de posséder l'autre. Ah, tu vois ce que je veux dire ? Voilà, c'est exactement ça. Mais ça, c'est de la sociologie, c'est pas de la psychanalyse.
Mais ce qui est plus drôle, c'est savoir que souvent, c'est les filles souvent qui deviennent le plus vite indépendantes, qui sortent vite de chez ses parents, et c'est les garçons qui sont plutôt tanguy à ce moment-là.
Je me faisais pas l'avocat de...
Après, moi, c'était plus que de la valorisation, c'est-à-dire que si je faisais des trucs avec mon compagnon que j'aurais pas fait s'il avait pas été là. Et c'est dans ce sens-là que je m'accomplissais. D'accord. Après, la valorisation, elle est partout dans un couple, je pense, et je la trouve pas forcément négative, mais c'est intéressant ce que tu dis sur la possessivité et la valorisation.
Je pense qu'on va faire une émission
sur
le patriarcat, peut-être, même si je sais que Guillaume n'est pas super chaud pour...
J'ai pas dit que j'étais pas super chaud, j'ai dit qu'on pouvait pas la faire n'importe comment. Mais bon, on va pas lancer ce débat. Parce que je sens qu'après, on va lancer Marine, ça sert à rien.
Mais déjà, il y a un truc qui m'a fait aussi sursauter, c'est le besoin de dépendance, tu vois. C'est...
Ah non, j'ai pas parlé de besoin de dépendance, j'ai dit que l'enfant était dépendant.
Non, mais toi, dans tes relations, tu parlais quasiment de dépendance à la personne.
Non, j'ai dit que justement, j'ai dit que cette potentielle dépendance, mais du coup, du fait que je m'accomplissais que via la personne, me pesait vachement. Et que du coup, je remettais en question le fait que j'avais pas forcément ni une solitude détresse, ni une solitude sereine, mais que j'avais un peu des deux parfois. Et que ça dépendait peut-être des moments, que ça dépend, je sais pas. Ça, bon, je vous dirai quand j'aurai fait ma psychanalyse dans 10 ans.
De toute manière, les choses sont rarement monocausales.
C'est ça.
Elles dépendent rarement d'une explication unique.
Tout à fait.
Non, mais... On parlait de choses qu'on ne ferait jamais sur son conjoint et tout ça, sur l'accomplissement. Moi, je pense que je m'accomplis très bien tout seul, mais il est évident que la plupart de mes compagnes m'ont fait faire des choses que je n'aurais jamais fait tout seul. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'envie, mais qui ne donne pas les moyens de ses envies. Ceci étant dit, ce n'est pas pour autant que les envies ne sont pas là. C'est ça que je veux dire. Donc, en un sens, je ne vais pas m'accomplir parce qu'il y a mon conjoint, mais je vais peut-être plus m'accomplir parce qu'il est là.
Tu viens de répéter la même chose.
Non, alors attends.
Mais je crois que j'ai compris ce que tu veux dire.
Je ne m'accomplis pas par mon couple.
Mais voilà. Parce que.
C'est une opportunité en fait.
C'est une opportunité. Voilà, exactement. Exactement.
Ok. Très bien.
Wow.
Tu as peut-être aussi envie de briller auprès de ses yeux et du coup tu fais les trucs que tu as envie de faire. Alors que tu les aurais pas fait si t'étais tout seul.
Oui, mais ça, c'est même pas ma seule compagne. Je pense que c'est n'importe qui.
Ouais.
et c'est par aspiration. C'est-à-dire que, en fonction des personnes dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, ça y répond. Voilà. Et je vais faire un sort de. Et après, une fois que j'ai leur adoubement, je m'en bats les couilles, je passe à autre chose. C'est d'ailleurs. Tu peux résumer toutes mes dernières phases créatives à sensiblement ça, mais voilà. Et celles qui sont restées sont celles en fait qui ont été entretenues dans une relation, dans ma relation, qui ont fait que finalement bah ça a continué. Voilà. Bon, bah écoutez, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ?
Non.
Non.
Je vais juste répondre parce que là je vois Maitra qui
alors attends. Si tu veux parler au live, le live on fera après le générique, tout simplement.
Non, ça répond, ça allait dans la suite de ce que tu disais.
Alors vas-y. Alors d'abord refais la question. Si tu veux faire interagir le live, je veux la question en entier et après tu y réponds. C'est tout. Voilà.
Ok, bah, je vais juste pas répondre à une question alors. Je vais juste rajouter quelque chose par rapport à ce que tu disais avant et ce qui va en même temps peut-être répondre involontairement à la question de Maitra. Du coup, tu parlais du couple et donc de la solitude. Et pour y avoir réfléchi il y a pas longtemps, justement, je pense que pour être heureux en couple, il faut forcément arriver à être heureux tout seul déjà. Et ne pas vivre à travers son couple, pour parler uniquement du couple, hein, mais je pense que peut-être que ça peut, j'ai pas vraiment pensé, mais peut-être que ça peut se transposer dans toutes les relations, qu'elles soient amicales ou autres, et donc arriver à être heureux tout seul avant de pouvoir être heureux avec les autres.
Moi, je suis d'accord avec ça.
Oui, mais je pense que pour être heureux en couple, il faut reconnaître principalement une première chose, c'est que on est, et être en couple, à ce titre, est égoïste. On est égoïste et on se met en couple par égoïsme. On ne se met pas en couple pour être avec quelqu'un, on ne se met pas en couple pour être heureux pour quelqu'un, on ne se met pas en couple pour investir, on n'est pas là pour faire plaisir à la personne avec qui on est. Le fondement, ce n'est pas ça. Je ne suis pas en couple pour acheter des fleurs à une telle, pour lui lécher la joue. Voilà. Je ne suis pas là pour faire plaisir. Je suis là d'abord... Parce que, oui, t'as vu, mon audience rigole parce que j'ai fait preuve de correction malgré moi. Je suis pas là pour lui faire plaisir. Je suis d'abord là parce que ça me fait plaisir, parce que je suis heureux avec cette personne-là. Parce que, à vrai dire, si j'étais pas. Parce que, à vrai dire, je concède mon bonheur tout seul. J'étais heureux tout seul. Si, à vrai dire, je me mets avec quelqu'un, c'est pas pour être malheureux et c'est pas pour accéder à toutes ces demandes au risque d'être malheureux, moi. C'est ça, en réalité. Et en un sens, faut juste cette prise de conscience-là. Je pense que tout bon couple commence par une prise de conscience. C'est une... Comment dire, une envie égoïste.
Tu sais quand même que la communication et se mettre d'accord sur des choses, ça existe. Hein,
Non mais là, t'es juste en train de décrire le fait que les deux personnes doivent être conscientes d'être tout simplement uniques et de pas vouloir faire...
Je dis simplement pour l'avoir vécu.
T'es une unité et que t'es pas là pour...
Je dis simplement
pour
que...
Pour concéder des choses. Que t'es là pour faire 1 plus 1, ça fait 2, quoi.
J'ai simplement...
3, 2. Peut-être 3, ça dépend.
Sinon, tu fais fusion.
Mais que, voilà, 1 plus 1, ça fait pas 1. C'est ça que t'es en train de dire, en fait.
Non, c'est ce que je veux dire, c'est que combien de fois je me suis mis en couple parce que j'avais pas envie d'être seul.
C'est ce que je te dis. Enfin, moi, c'est ce qui me semble...
Non, mais juste parce que t'as pas envie d'être seul. De ce point de vue-là, oui, loin de te dire, je te mets pas en couple. Fais-le parce que t'en as envie. Et que la personne aussi est consentante.
Non mais on tourne sur la même boucle. Enfin bon, peu importe.
Oui, non mais je crois que je vois ce que tu veux dire. Par exemple, c'est la raison pour laquelle je cours pas après les nanas en ce moment, c'est que je me sens pas seul.
Voilà.
Donc j'ai pas besoin de.
Et puis honnêtement, tu te mets pas en couple parce que tu te sens seul, putain. J'espère pas. Hein.
Bah non, moi c'est parce que j'ai envie d'aimer tout simplement en ce moment-là, tu vois.
Mais moi je peux aimer en étant seul.
Ou pente glissante, on va arrêter. On va arrêter cette conversation.
De toute manière, je ne pense pas que ça soit le sujet de...
Non, pas du tout en plus. Donc,
mais se mettre en couple n'est pas une façon de rompre la solitude, c'est ça que je veux dire.
Non.
Non, mais j'ai l'impression que t'as vraiment un point de vue très négatif là-dessus, que même moi, pourtant, je n'ai pas.
Mais mon point de vue n'est pas négatif.
Je pense qu'il est juste, il essaye d'avoir un point de vue factuel et qui fait pas de jugement. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif.
Voilà.
Au contraire, moi je pense que là pour le coup, au contraire, tu juges.
C'est-à-dire?
Ben pour toi, ouais. En fait, si les gens, en fait, qui se mettent en couple, ouais, c'est parce qu'ils sont comme ça. En fait, tu catégorises le truc.
Ah non, pas du tout. Je te dis simplement qu'un couple viable et un couple qui va fonctionner est un couple où chacun des deux est d'abord heureux tout seul, c'est tout.
Oui, non, mais là-dessus, bon, on est d'accord. Mais après, vu ce que tu as dit par la suite, t'as
bon.
Un peu...
Bref, de toute
être
façon...
Être heureux tout seul pour être en couple, quoi. C'est beau, voilà.
Exactement. Voilà, la solitude, ça... est-ce que le couple, voilà, ça ne serait pas la rencontre de solitude, voilà.
Oui, rendez-vous au mail comme ça, on se mettra une cuite au whisky.
Berk.
Bon, on conclut cette longue émission.
Oui, bah oui.
Est-ce que tu as profité de la pause musicale pour nous préparer un petit quiz?
Est-ce que tu vas arriver à faire la transition musicale?
Surtout si c'est ce que je pense, faut que je chante.
Alors, il n'y aura pas de quiz. Je voulais faire d'abord un quiz seul ou pas seul, mais j'en ai que 4. Vous voulez le quiz?
Non, de toute manière, c'est une mauvaise idée parce qu'on n'a pas un nombre suffisant de micros pour pouvoir donner des réponses.
Bah non, mais je tape Laurent si je me mets en équipe avec lui. Hein.
Ah bah tu fais ce que tu veux avec Laurent, Marine. Enfin...
Tu te tapes Laurent. Ah
non, c'est
la
dégueulasse.
Allez,
je tape Laurent, j'ai dit.
J'aime beaucoup cette...
Non,
alors...
non mais je me tape Laurent. Je me respecte.
Je me...
Oh, c'est pas sympa pour Laurent.
Oh la violence. Oh.
Humour. Je sens que je vais me faire assassiner dans la rue ce soir. Non, mais non, je suis désolée. Arrêtez. Arrêtez. Il est pas venu à cause de moi. Je suis désolée.
C'est pour ça qu'on va lancer la coupure musicale. Donc, nous rappelons à tout le monde que vous pouvez aller nous voir sur Facebook. On a une page qui s'appelle Nootgang TV sur laquelle on met tout Dimanche Dépression. D'ailleurs, je pense qu'à partir du 1er janvier, on vous enverra plutôt vers Dimanche Dépression. Parce qu'il y a aussi la page Facebook Dimanche Dépression. Vous pouvez aller liker notre Instagram, enfin nous follow sur Instagram, sur Twitter, Nootgang TV, vous cherchez, vous me trouverez. On vous remercie pour ceux qui étaient en live de nous avoir suivis et d'avoir commenté. Je pense qu'on va rester pour répondre aux diverses questions, donc n'hésitez pas. Pour la fin, je vais vous dire, la fin, c'est un chef-d'œuvre musical. C'est du plaisir, c'est un instant, c'est une poésie qui s'envole, c'est de l'amour. Sachez qu'elle a été en couple avec Garou. Je vous place ça là. Que c'est une chanson qui aurait pu être écrite par Marine, genre dans une fin de soirée où on l'a un peu trop saoulé, elle aurait pu l'écrire. C'est la chanson que pourrait écrire ce soir Laurent, parce qu'il vient de se faire violemment. Mais voilà, il est tout vexé, il est pas bien. Voilà, tu m'as fait bugger Laurent, c'est moche. Parle dans le micro, on l'entend.
Je m'excuse, Laurent.
Voilà, il est triste.
Mais ça se voit, son regard, ça a tout changé d'un coup.
C'est pour ça.
Regarde-moi.
Sur ce drame qui est en train de se jouer, que nous allons lancer.
Tu sais que c'est un truc qu'on dit toujours pour rire.
Que nous allons lancer du Laurie. Sur ce, moi, je préfère rester toute seule. Laurie.
We'll be right back.